Le chapitre 24 du livre de Josué est important. C'est l'extrait que nous venons d'entendre comme première lecture. Le peuple a commencé à vivre dans la terre promise. Et voilà que Josué va rassembler les 12 tribus à Sichem. Pour eux, c'était l'endroit le plus important. On peut dire que c'était comme la capitale de la terre promise avant que David ne l'établisse à Jérusalem. Et voilà que ce qui était important ce jour-là, c'était refaire l'alliance avec le Seigneur. En revivant ce que Abraham a fait avec Dieu et ce que Jacob, Isaac et les autres ont fait avec Dieu, eh bien le peuple veut se rappeler tous les bienfaits du Seigneur dans l'histoire. C'était comme c'était une récapitulation des œuvres du Seigneur pour son peuple. Alors, les 12 tribus se mettent ensemble, ils s'entendent aussi entre elles pour constituer un seul peuple et en même temps pour se reconnaître comme peuple de Dieu et promettre la fidélité envers Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir que même plus tard, après Josué, les tribus vont continuer à se réunir à Sichem une fois l'an pour revivre encore une fois les merveilles du passé, mais en même temps se rappeler que ce Dieu-là du passé continue à les accompagner encore dans le présent. Alors cela nous rappelle en fait ce que nous faisons avec l'Eucharistie. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous ne limitons pas simplement à l'aujourd'hui, mais nous retournons à l'événement qui a fondé, qui a fait jaillir, qui a engendré l'Eucharistie, la mort, mettons même la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Alors quand on célèbre l'Eucharistie, eh bien, on récapitule toute la vie de notre Seigneur en un seul événement, on le met ensemble. Alors, le Seigneur qui établit l'alliance avec nous par l'Eucharistie, ce qu'il a fait au passé, il continue à le faire aujourd'hui. L'Eucharistie rend présent l'amour du Seigneur, le sacrifice du Seigneur, les grâces de Dieu aujourd'hui. Alors, en fait, comme le peuple d'Israël, nous ne voulons pas vivre simplement en regardant le futur et en gardant le passé, le présent, je veux dire, mais il faudrait se remémorer, il faudrait se rappeler toutes les actions du Seigneur dans le passé, ce qu'il a fait avec l'Église, ce qu'il a fait avec le peuple, de l'humanité, et ce qu'il a fait avec chacun, chacune d'entre nous dans l'histoire. Tout cela, on le prend et on le célèbre durant l'Eucharistie. L'Évangile, nous le connaissons très bien. Il faudrait prendre le contexte dans lequel Jésus s'exprimait. C'est le contexte patriarcal. C'est vrai que dans le contexte patriarcal, comme c'est le même système dans plusieurs pays encore aujourd'hui, en Afrique, en Asie, même ici au Canada en gros, c'est qu'en fait, quand tu regardes bien le système patriarcal, c'est l'homme qui pose les règles. Évidemment, l'homme en posant les règles, tout est à son avantage. Quand on regarde le temps de Jésus, eh bien, pour le divorce, c'était l'homme qui décidait, qui renvoyait sa femme. Est-ce que la femme renvoyait l'homme? C'était l'homme qui renvoyait sa femme. C'était l'homme qui établissait les lois. Et avec ça, ben, la femme était toujours victime. Alors, ce que le Seigneur apporte, c'est quelque chose de nouveau. Lui, il dit, mais non, quand tu renvoies ta femme là, tu es adultère. C'est-à-dire que tu ne devais pas la renvoyer. Parce qu'il y avait plusieurs motifs qui ne se tenaient pas et qu'eux se permettaient de renvoyer comme ils voulaient. Ça devait être comme un jeu finalement. En fait, c'était à leur service. Hein, quand ils voulaient se débarrasser d'une femme, ils pouvaient même fomenter de fausses raisons en vue d'en prendre une autre. Alors le Seigneur, en fait, il apporte quelque chose de nouveau en rappelant ce que le Seigneur a voulu quand il nous a créés au début. Il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Parlant du système patriarcal, on peut dire qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus de ce système-là. Regardez tout ce qui se passe en ce qui concerne la violence sexuelle. D'ailleurs, hier, j'écoutais encore à la radio, on essaie de poursuivre certains soldats de l'ONU qui ont été en Afrique, exactement au pays centrafricain. Il paraît qu'ils auraient attrapé une jeune fille de 12 ans, ils ont été violents avec elle, et puis ils l'ont violée, etc. Beaucoup de choses, tu te dis, mais d'où viennent toutes ces choses-là? Alors c'est toujours, encore une fois, peut-être l'homme qui croit que c'est lui qui doit diriger tout, il considère la femme parfois comme un instrument, comme un objet. D'ailleurs, dernièrement, je lisais un document qui parlait de Jean-Paul II. Il dit, quand il était professeur à l'université chez lui, professeur de philosophie, il a posé sa pensée sur le principe de Kant. Kant, qui est le philosophe allemand, dans sa morale, lui, Kant disait, écoutez, dans la morale, ce qu'il faut retenir au fait comme fait principal, c'est que il ne faut pas se servir de l'être humain comme instrument. Jamais se servir de l'autre. Alors Jean-Paul II, en construisant sa pensée, s'est servi beaucoup de cette pensée-là de Kant, voyez-vous. Alors, même dans les relations sexuelles, dans les relations entre hommes et femmes, eh bien, on ne se sert pas de l'autre. C'est-à-dire, l'autre ne devient pas notre service. Mais on essaie de vivre la communion. Et Jean-Paul II de rappeler, en fait, même dans la relation entre hommes et femmes, ce qu'il faudrait, c'est refléter l'image de Dieu. Dieu nous a créé à son image, et cette image se traduit aussi dans la relation entre homme et femme. C'est pas seulement homme qui est image de Dieu, c'est pas seulement la femme qui est image de Dieu, mais l'homme et la femme, les deux aussi, reflètent l'image trinitaire de Dieu. Voyez-vous? Alors on va demander la grâce du Seigneur aujourd'hui. Priez pour les couples, pour les différentes nations aujourd'hui, pour que la réalité primaire, ce qui est venu de Dieu, que l'homme et la femme sont égaux, qu'ils sont appelés à travailler ensemble, la complémentarité pour un nouveau monde, et bien que ça se réalise de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui. Il y a tous ces problèmes avec les crimes d'honneur, par exemple. Tout ça, c'est encore l'homme. C'est l'homme qui dit, on a été blessé. Ma fille est partie, elle ne sait pas qui, là. Nous avons été déshonorés. Qui a été déshonoré? Ce sont les hommes qui ont été déshonorés. Donc, la femme doit être punie. C'est encore toutes ces choses-là qu'il faudrait dénoncer. Et moi, je suis convaincu que si le Seigneur vivait encore aujourd'hui, on lui pose la question, il répondrait comme il a fait avec les pharisiens. Parce qu'il va essayer de protéger la faible, la femme. Il va essayer de protéger la victime. Alors, on va continuer à prier dans la messe d'aujourd'hui en se rappelant de Maximilien Kolbe. Lui-là, il a donné sa vie pour une personne, vous connaissez l'histoire, même ce qui est beau et qui est fascinant, vous le savez, c'est que quand Jean-Paul II a canonisé Maximilien Kolbe, le père de famille que Kolbe avait sauvé dans le camp de concentration était à la canonisation, il était là avec ses enfants, c'est fort. Donc pour dire que, en fait, notre vie à nous, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie consacrée, que ce soit paroissien, paroissienne, c'est toujours donner sa vie pour l'autre. C'est toujours se décentrer pour se centrer sur l'autre complètement. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça qu'a vécu Jésus. Et l'Eucharistie consiste en cela, et qu'on devient pain, c'est-à-dire on est là pour les autres. Amen.